Pied sur terre. Sonia Kronlund.
Journal de ma vie, une série d'Adila Benedjaizou, cinquième épisode, Jacqueline P.
Alors le 11-9-59. Myosotis, sais-tu comment Jean-Charles m'a appelé dans une de ses lettres ? Ma Jackie, ma mignonne. Je crois que c'est la première fois qu'il m'a écrit ma Jackie. Je lui ai dit, mon cœur est tout à lui. Et plus tard, je serai tout à lui. Je serai devenue sa femme. Mon cœur ne va-t-il pas éclater d'amour et de joie ?
Dans mon cœur, entendez-vous les temps.
Dès qu'on entend les mots journal intime, ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Le narcissisme des très jeunes filles et des vieux écrivains qui s'emberlificotent dans leur rapport au monde. Mais si on gratte un peu l'encre turquoise, qu'on crochette les verrous dorés, on trouve un trésor, le répertoire de nos amours contrariés et de nos ambitions secrètes, celui de nos bobos quotidiens aussi. Nos journaux intimes sont précieux parce qu'ils contiennent tous les aspects de notre existence que personne n'a jugé digne d'être conservé. Ils sont les archives de notre histoire intime. Le journal de ma vie, épisode 5. Jacqueline.
Alors, je vous ai apporté les pages du journal.
Aujourd'hui, nous allons parcourir le journal de Jacqueline.
Je les ai tapés pour que vous puissiez me lire des extraits, mais je vous ai quand même apporté...
La rencontre avec Jacqueline est un peu déroutante, car je connais mieux qu'elle son journal intime.
Des photos que j'ai faites.
Ce journal, qu'elle a commencé à 15 ans, sur des petites copies perforées à petits carreaux.
C'est étonnant, comme j'écrivais bien.
Jacqueline l'a déposée à l'Association pour l'autobiographie, sans en garder de copie.
Puis c'était très serré, c'est drôle. Hein.
C'est dans ce centre de documentation, qui conserve tous les journaux intimes qui lui sont confiés, que je l'ai trouvé et que je l'ai lu.
Je n'ai laissé aucun espace, mais sans doute ça traduit l'atmosphère irrespirable dans laquelle je vivais.
La première fois qu'on se rencontre, Jacqueline me dit qu'elle n'a jamais relu ce journal qu'elle a écrit entre 1959 et 1962. Elle se souvient simplement qu'elle a arrêté de l'écrire quand elle a commencé à avoir des relations sexuelles. Ça ne m'étonne pas, car ce que raconte le journal de Jacqueline, c'est une éducation sentimentale. Celle d'une jeune fille d'avant la révolution sexuelle.
Alors, je m'appelle Jacqueline et je suis née le 22 mars 1944, donc je viens d'avoir 80 ans.
Mais pour repartir du début, le 11 septembre 1959, quand Jacqueline commence son journal, elle a 15 ans. Et comme la plupart des adolescentes qui tiennent un journal, elle cherche à qui s'adresser. Elle écrit. Voilà. J'ai trouvé à qui j'écris mon journal. Je l'écris au myosotis.
Le myosotis n'est pas la fleur que je préfère, car je les aime presque toutes, sans préférence. Le myosotis évoque pour moi du bleu, de l'amour, de la fidélité, de la timidité. Tu sais, petit myosotis, ce soir, je ne te dirai pas grand-chose, car demain, j'ai composition de mathématiques. J'habitais Marseille. Saint-Antoine, c'est un quartier nord. Mon espace était très petit. C'était l'école, c'était les amis. Alors je voyais de mon balcon la mer, les bateaux. J'étais très studieuse. Pour moi, l'école était très, très importante, étant donné que ma famille était une famille d'ouvriers, pas très cultivée, mais qui investissait beaucoup l'école. Et puis d'ailleurs, ma mère me disait, toi, t'es pas... Ma fille est pas très intelligente, mais elle travaille beaucoup à l'école, elle est appliquée. C'est vrai que j'étais très appliquée, que je voulais réussir. Et j'étais amoureuse.
Qu'est-ce que ça signifie, être amoureuse, en 1959 ? Si j'en crois le journal de Jacqueline, ça implique de se voir en cachette.
Quel merveilleux instant passé dans ce petit cabanon, comme nous étions heureux tous les deux.
D'échanger des baisers.
Nos yeux, nos baisers, nos étreintes.
Beaucoup de baisers.
Étaient plus convaincants que tous les mots d'amour.
Et surtout, de rêver à la vie que l'on mènera quand on n'aura plus besoin de se cacher.
Nous travaillerons tous les deux afin de pouvoir nous payer une maison, un mobilier et tout ce qui est nécessaire. Après, je cesserai de travailler pour me consacrer à nos enfants. J'en voudrais deux. un garçon et une fille. Toi, tu en veux 6 ? Tu m'expliques que le mariage n'est pas seulement un plaisir. Il faut aussi accepter la souffrance. Tel le veut un bon mariage chrétien. Nous ne sommes même pas fiancés et nous pensons déjà à cela. Tu te rends compte, mon journal ? J'avais une grande amie qui s'appelait Geneviève et ses parents avaient un jardinier qui s'appelait Jean-Charles. Jean-Charles, c'est mon amoureux, mon premier amoureux. Voilà, donc il était associé aux fleurs. Et j'étais avide d'amour. Enfin, ce qui me reste, c'est que évidemment, il ensoleillait mes journées, qu'il m'a porté. Alors là, j'ai un poème, je pourrais vous le lire, sur une rose qu'il m'avait envoyée.
Oui. Le journal de Jacqueline contient aussi de la poésie.
Et que ma mère et ma grand-mère s'étaient empressées de jeter.
Et il y est souvent question de fleurs.
Les deux roses.
Mais sous les alexandrins, la colère gronde.
C'était un beau matin, un matin de printemps. La brise ensoleillée jouait avec les feuilles. Les oiseaux dans les arbres chantaient leurs plus beaux chants. Tout était pur, joyeux, à côté de l'aïeul. Elle monta soudain dans les grands escaliers et y trouva quoi donc de roses en boutons ? Elle pensa alors à celui que j'aimais. Ces fleurs représentaient l'amour de ce garçon. Ces roses m'appelaient, c'était de toi, mon Jean. Je les reconnus vite, preuve de ton amour si grand et si touchant pour moi, petit enfant. Une main m'arrêta, une main si cruelle, qui fit cesser mon cœur de battre un instant. Cette main, c'était celle de ma grand-mère, qui voulait supprimer cet amour de 15 ans.
Tout ça vous paraît d'un autre âge. Il faut se souvenir qu'à la fin des années 50, la pilule et le planning familial ne sont que des inventions américaines dont personne n'a entendu parler. L'Église est très importante. La génération du baby-boom est en culotte courte et n'a pas encore bouleversé les règles du jeu, de la conjugalité et des relations hommes-femmes. Ce qui ne signifie pas que les amoureux ne parlent pas de sexualité, mais qu'ils en parlent dans un langage fleuri, au sens propre du terme. Comme dans cette lettre que Jean-Charles écrit à Jacqueline au mois de mars 1960.
« Mon cœur, quoique parfois très malade, renferme toujours et aime toujours la même fleur. Cette rose dont j'ai souffert beaucoup, dont j'ai versé beaucoup de larmes, elle m'a ouvert son cœur, m'a soulevé ses pétales, mais les renfermait toujours lorsque mon regard, peut-être indiscret, voulait voir son intérieur. Chaque fois, alors mon cœur s'obscurcissait, mais jamais tu n'as eu et tu n'auras un instinct de faiblesse. »
Il parle de quoi là ?
Lorsque mon regard voulait voir son intérieur. Ah oui, alors après, c'est moi quoi, soyez libre. Mon intérieur, c'est moi. Parce qu'on avait beaucoup de problèmes, parce que lui voulait, il avait 4 ans de plus, donc il voulait faire l'amour. Et moi, ça m'effrayait, bien sûr. Donc je pense qu'il parle de moi là. Et il me fait un peu de chantage en me disant, tu vois, comme je me sacrifie, je ne vais pas voir d'autres femmes, etc. Donc moi, je le prenais comme une preuve d'amour, qu'il n'aille pas faire l'amour avec d'autres filles.
Jacqueline répond à Jean-Charles, à grand renfort de fleurs également. Le 13 mars 1960, elle écrit. Hier soir, j'ai répondu à sa lettre. Voici à peu près ce que je lui ai mis.
La rose dont tu parles perdrait tout son parfum si elle entr'ouvrait trop ses pétales. Tu sais, mon cœur est aussi fragile que ses pétales qui ont frémi ce soir d'un si grand bonheur. Newsoutis, dans un élan d'amour, je lui ai confié mes faiblesses. Ce n'est que ce soir que je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des moments où je désirais être à lui. J'ai eu la force de lui résister jusqu'à présent. Mais cette force durera-t-elle ? Là, je m'aperçois que j'avais envie de céder à son désir de faire l'amour, mais j'étais tellement croyante et tellement imbue de tous les principes de la société à ce moment-là, enfin, concernant les filles, que c'était un combat entre mon désir de céder et mon désir d'être sage.
N'oublions pas que durant ces échanges, Jacqueline a à peine 16 ans et Jean-Charles en a 20. Néanmoins, à partir du mois de juillet 1960, les roses laissent place à des mots plus explicites. Le 19 juillet, Jacqueline écrit.
Dimanche matin, nous nous sommes vus seuls. Il a essayé de mettre sa main à ma poitrine et je ne lui ai pas résisté. Lorsque je me suis aperçue de ce que j'avais fait, une grande honte m'a envahie. Moi qui méprisais les filles qui faisaient cela, je me suis méprisée moi-même. Je me détestais. J'étais tombée bas, très bas, par amour. J'étais très croyante jusqu'à 18 ans. Et donc, je faisais des prières tous les soirs pour les vivants, pour les morts, voilà. Toujours, je me référais à Dieu, Dieu qui me voyait, Dieu qui... Je faisais du mal. Dans l'éveil de ma sexualité, j'avais l'impression que je faisais des choses qu'il ne fallait pas faire. Et puis Dieu, sans doute, était le représentant de mon père qui me manquait, puisque mes parents étaient divorcés.
Les pages du journal de Jacqueline égrènent sa culpabilité. La culpabilité d'être enfant de divorcé, culpabilité de ne pas obéir à Dieu, culpabilité de ne pas s'abandonner au désir de Jean-Charles. Il a une seule chose contre laquelle elle se rebelle, c'est l'autorité de sa mère. Elle écrit « Je suis lasse, lasse de vivre. Je n'ai plus d'espoir, plus de rêve, plus d'illusion. »
Hier soir, nous parlions sur le portail lorsqu'est arrivé Mémé. Mais on t'a dit de ne plus le voir.
Hélas, comme dans toutes les grandes histoires d'amour, les deux héros sont obligés de se séparer.
Bonjour, bonsoir, ça suffit. Puis s'adressant à Jean-Charles. Tu ne pars pas encore au service ?
Jean-Charles doit partir faire son service militaire. Heureusement pour lui, il n'est pas envoyé en Algérie, chose possible à l'époque, mais en Côte d'Or.
On dira bon vent, tu sais. Vous n'avez plus honte que tous les voisins vous regardent ?
Et la distance, au lieu de raviver la flamme, l'éteint. Jacqueline s'étonne de penser à Jean-Charles par habitude, mais de ne plus se souvenir qu'elle l'aime. Et puis, les lettres de Jean-Charles sont décevantes. Le 2 août 1960, elle écrit « Pourquoi en lisant sa lettre ai-je toujours mal ? Je suis peut-être, comme dit maman, une petite fille capricieuse qui ne sait pas ce qu'elle veut,
qui ne sait pas non plus ce qu'elle pense. Myosotis, mon amour s'est-il enfui ? Je l'aime maintenant, je le détesterai tout à l'heure. Il me sera indifférent demain. »
Au fil des semaines, Jacqueline s'éloigne peu à peu de Jean-Charles. Aujourd'hui, elle ne se souvient plus de ce qui a provoqué le désamour. Et même en lisant soigneusement son journal, je n'ai pu trouver de raison précise. Était-ce l'absence ? Était-ce par caprice, comme elle le pense ? Ou bien simplement parce qu'elle n'avait que 16 ans ?
J'oubliais de te parler de Marcel. Je précise bien Marcel le marin.
Marcel, Alain, Maurice.
Il me dit qu'il n'oubliera jamais le bal de Pérols.
De nouveaux prénoms apparaissent dans le journal de Jacqueline.
Il pense souvent à moi.
Mais aucun ne remplace Jean-Charles. Jacqueline ne rêve plus de mariage avec personne. Elle se contente de sages rendez-vous où elle refuse même de se laisser embrasser sur la joue.
En arrivant à la maison le soir, il y avait de la musique à la télé. Nous avons dansé. Et je voyais qu'il luttait contre lui-même. À plusieurs reprises, il a essayé d'approcher son visage du mien. Je l'ai repoussé. Il m'a dit « Tu sais, il faut que j'en aie de la force. »
Et cette vie, à la fois papillonnante et chaste, dure jusqu'en 1961. Année où elle découvre la philosophie.
Dans le premier cours de philosophie que j'ai eu au lycée Nord, mon professeur de philosophie s'appelait Tête, et il a raconté le mythe de la caverne de Platon. Tout d'un coup, moi, j'ai pensé que je prenais la religion pour la réalité, mais que c'était une ombre, que ça n'existait pas. Et à partir de ce premier cours de philosophie, j'ai arrêté d'être croyante.
Le lundi 30 avril 1961, Jacqueline écrit.
Le dimanche de Pâques, je suis allée à la messe. Je ne sais pas pourquoi, je n'y crois plus. Il y avait une musique d'orgue qui m'a touchée. J'ai été étonnée de sentir que ma foi n'était peut-être pas morte. J'étais aussi émue, j'avais envie de pleurer. Mais lorsque la messe a commencé, j'ai trouvé les gestes du prêtre absurdes et ridicules. L'indifférence a fait place à l'émotion, le dégoût à la quête, l'ennui et le mépris. C'était dans l'année de mes 17 ans, 17-18 ans. C'était dans l'année de ma philo.
En étudiant la philosophie, Jacqueline ne s'affranchit pas uniquement du regard de Dieu, mais aussi de celui de sa mère et de celui de ses voisins. En septembre 1961, elle part faire ses études à Aix-en-Provence et emménage avec une amie, Josiane. Loin de son quartier, Jacqueline fait l'apprentissage de la liberté. Elle va au dancing pour la première fois de sa vie. Le 14 novembre 1961, elle écrit « J'ai toujours dansé dans des fêtes de village et c'était pour moi un événement de danser dans une cave. Je me suis dit qu'il ne fallait pas trop montrer ma surprise,
que je devais m'adapter
et surtout cacher de mon mieux ma naïveté.
Nous descendîmes d'abord un escalier étroit. Nous arrivons dans une atmosphère irrespirable. Comment peut-on danser ici ? Les couples fondus sur place, on m'invite, j'accepte sans pouvoir distinguer dans cette obscurité les traits de mon cavalier. Je ne sais plus au juste quelle impression j'éprouve. Oui, dans cette cave, tout semble permis. Un baiser n'a pas plus d'importance qu'un grain de sable que la mer emporte. »
Pourtant, deux mois plus tard, les réserves de Jacqueline s'envolent et le ton de son journal change. Le 5 janvier 1962, elle écrit
« Réveillon, ce bon garçon, jour de l'an, troisième. Ils ont embrassé ma joue et mon cou. Ils ont appuyé leur joue contre la mienne. Ça m'est agréable. Jusqu'où ? Question que je me pose. Le dernier me plaisait. La joue sentait bon. Sa peau ressemblait à une peau de bébé. J'aimais beaucoup son sourire. Ce qui m'abîme, qui risque de me faire perdre ma liberté, c'est le sentiment que je mets dans le flirt. » Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, j'ai rencontré José, dont je ne parle pas. Je ne sais pas si j'en parle, José, dans mon journal, non ? J'en parle, José ?
À la fin.
À la fin, mais vous très avez... peu, oui.
Très peu.
Alors là, je suis stupéfaite que Jacqueline ne se souvienne pas si elle a écrit quelque chose sur José. Car pour moi, José est l'entrée la plus bouleversante de son journal.
C'est là.
Voici comment elle décrit leur rencontre.
« J'espérais voir, sans trop me l'avouer, un garçon qui un soir était assis à côté de moi. Une fille lui faisait passer un plat. « Merci mon chou, lui dit-il. » Comme je me relevais de table pour partir, il dit en regardant mon chemisier blanc et ma jupe rose. La plage, le soleil, le sable. Je partis en souriant. Ce garçon devait être poète, certainement. Et puis, il avait l'air d'un fameux bout en train.
Et dès cette première rencontre, je commence, moi aussi, à tomber amoureuse de José.
Il me dit, à brûle-pourpoint, « Vous devez certainement écrire un journal, des poèmes aussi. » Je le revis un autre jour, nous commençons à bavarder et je me sens tout de suite à l'aise avec ce grand garçon. Bientôt, sans nous connaître et en nous devinant, simplement nous parlons comme de vieux amis de choses sérieuses. Il lit en moi, comme je lis en lui, il me semble tout à coup, sans que cela soit bien conscient encore, que j'attendais un être pour réaliser ma vie, qu'il est là, près de moi, qu'il me parle. Il me propose de me faire écouter des disques classiques. J'accepte, tout simplement comme une chose très naturelle, de le suivre dans sa chambre. Je n'ai pas peur. Je suis un peu émue cependant, un peu tendue aussi. Nous arrivons dans sa chambre. Il éteint la lumière, je n'ai pas peur du noir, je me souviens de ses paroles. Flirter, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai que des maîtresses, mais j'ai confiance, peut-être plus en lui qu'en moi, car je me sens si faible entre ses bras. C'était violent pour moi parce que j'ai l'impression qu'il a enlevé mon soutien-gorge de manière violente ou peut-être déchiré, je ne sais pas. J'ai un sentiment que c'était violent, mais en même temps, je le souhaitais. Mes premières relations violentes.
Il n'y a pas une ligne dans le journal de Jacqueline sur cette première expérience sexuelle. Ce jour-là, elle note simplement « Je ne pensais pas qu'il y ait une telle limite de bonheur. Au-delà, on doit se briser, certainement. » Dès le lendemain, Jacqueline cherche à retrouver José. « À nous retrouver », écrit-elle. Mais du côté de José, la magie n'opère plus. Elle finit par tomber sur lui au restaurant universitaire, entourée d'autres filles. Elle écrit « J'ai terminé mon repas. Que vais-je faire ? Mon orgueil me commande de partir. Mais où est-il, mon orgueil ? Où est-elle, ma dignité ? José, as-tu du travail ce soir ?
Oui, cela signifie ne viens pas, va-t'en. Mais je ne comprends pas encore. Je ne veux pas comprendre. Veux-tu que je vienne ? Il baisse les yeux. Comme tu veux. L'amour, la douleur m'aveugle et je n'ai même pas conscience de m'abaisser, de m'humilier quand je lui demande à nouveau « Est-ce que tu veux que je vienne ?» Non. Je me lève, je dis au revoir, je rejoins Josiane. J'ai mal derrière la tête et je ne peux pas parler. Il ne faut pas non plus qu'on me parle. Je ne peux pas rentrer encore. Nous nous asseyons sur un banc. Josiane me dit seulement « Il ne vaut pas la peine que tu pleures. »
Ce sont les dernières lignes du journal de Jacqueline. Il s'arrête là. Et je comprends enfin la portée de ce qu'elle m'a dit la première fois que nous nous sommes parlé. Jacqueline a très concrètement arrêté d'écrire son journal le jour où elle a fait l'amour pour la première fois.
Et ensuite, je suis enceinte. Il est au courant que je suis enceinte et il dit qu'il va m'épouser et puis il disparaît. Donc pour ma mère, mon père, ça répétait les choses. L'histoire de ma mère, c'est qu'elle a été enceinte à 17 ans, qu'elle m'attendait. Elle, 17 ans, mon père, 18 ans. Ils n'étaient pas prêts à être des parents. Et je pense que ma mère avait peur que les choses se répètent avec moi. Alors je vivais dans un quartier nord où tous les voisins se connaissaient. Il fallait embrasser le matin, telle une, telle, voilà. Toutes les histoires se savaient. Et ma mère ne supporte pas l'idée que je ne sois pas mariée et que je sois enceinte. Elle va inventer une histoire aux voisins. Elle va dire que je suis mariée, déjà. Et elle m'envoie chez mon père. Et alors les voisins me font des cadeaux. J'ai une armoire dans ma chambre où j'ai tous les cadeaux de mon mariage. Et sans que j'exprime ma position par rapport à ma grossesse, moi je pensais le garder. Ma mère et mon père m'imposent d'aller en Suisse et d'aller avorter. Alors, c'est, paraît-il, le mari de ma mère, je le saurai longtemps après, qui va payer l'avortement, parce que c'était très cher en Suisse. En Suisse, je passe devant un gynécologue qui me bascule, et moi je suis très, très, très coincée, et il me dit « Ah, vous n'en faisiez pas autant quand vous avez pas fait tant de manières. Ah, » Donc c'était horrible. Je passe devant un psychiatre qui... comme j'étais vraiment dans un état psychique lamentable, qui juge que mon état fait que l'avortement est accepté. Mais il me dit plus tard, ce serait bien si vous repreniez un travail, enfin voilà, psychologique. J'étais tellement mal d'avoir été abandonnée, d'avoir... j'étais comme un légume qu'on a mené en Suisse. Enfin, je veux dire, j'avais perdu... la capacité de réfléchir. Et puis, comme j'ai été obligée de travailler pour rembourser l'avortement, j'interromps mes études à Aix-en-Provence et donc je travaille, je suis instite d'école maternelle à Paris et je fais toutes mes études en travail en fait. Et je choisis psychologie parce que en philo, il fallait que je rattrape beaucoup d'années de latin, je n'avais pas fait de latin, donc je choisis psycho qui m'intéressait aussi, voilà. Alors, j'ai suivi quand même le conseil là du psychiatre, j'ai fait une thérapie, et puis ensuite une psychanalyse. Je décide de quitter l'enseignement et de travailler avec mes diplômes de psychologue.
Quel regard vous portez, là, maintenant que vous avez lu ces passages, sur la jeune fille qui a écrit ces lignes ? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ?
J'ai envie de lui dire qu'elle a eu raison de créer un espace où personne ne pouvait rentrer. Le journal, c'est un espace intime. L'avoir pratiqué pendant 4 ans, je pense que ça m'a donné un certain rapport à l'espace intime, le mien et puis celui des autres.
On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon ami la rose.
C'était le journal de ma vie, 5e épisode avec Jacqueline P. Une série d'Adila Bene Jaizou réalisée par Clémence Grosse et mixée par Jean Guilin-Mège. Merci à Jacqueline, à Cyrus Mohammadi, à Marion Vallée, à l'Association pour l'autobiographie, à Delphine André Delina et à Rebecca Warrior qui signe la musique de cette série. L'attaché de production, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
Je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots journal intime, ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor, le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Bene Jaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.